RMC.
Vu le fait que les joueurs soient les 6 meilleurs joueurs, enfin en tout cas les 3 dans le groupe, les 3 joueurs importants soient partis.
Ils avaient besoin d'entendre une nouvelle. Ouais, mais bon, je veux pas revenir sur ce qui s'est passé avant.
Jusqu'à minuit, c'est l'Afterfoot, Nicolas Jamain.
Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être avec nous, l'Afterfoot est là comme tous les soirs, jusqu'à minuit
à la radio sur RMC, à la télé, sur RMC Sport News, avec un casting inédit pour moi. Voilà, deux grands conteurs, l'histoire du football est réunie dans l'After ce soir. Pierre Ducrot, bonsoir.
Bonsoir, Nicolas. Non, je réfléchissais, inédit pour toi ?
On n'était pas avec Il y a Alain Decaux dans ton bonsoir.
C'est vrai ?
Oui, on sent que tu vas raconter une belle histoire.
Dès que j'ai dit histoire, voilà. On a la voix d'un conteur. Hein. Ah, là. Pierre Belmar, les années 90-2000.
C'est votre choix.
François Marado est avec nous. Salut François.
Vous me faites trop d'honneur, Maître Jamain.
Bonsoir les amis, bonsoir.
Dans un instant, on ira à Washington, les dernières infos avant. Ouh. Grande finale de la EA League.
Ouh. Oui, tu la présentes bien.
Marseille, Montpellier, ce soir, 3h du matin, française. Avant, il y aura la petite finale entre Bordeaux et l'AS Saint-Etienne.
C'est retransmis une question en France ?
Oui, bien sûr. On va pas dire où, mais c'est retransmis.
Bon.
C'est Bein Sport.
Ah, une fois que c'est pas nous, oui. Il faut qu'on fasse de toute manière, Nico.
On n'a pas tous les droits non plus.
Hein. Bah, bien sûr.
On a suffisamment.
Et on a les plus importants dans la vie.
On a les plus importants. Au programme de l'After ce soir, messieurs, l'ambition podium d'Andrés Villas-Boas pour l'Olympique de Marseille. Il annonce ce matin. Est-ce que vous y croyez, supporters marseillais ? 32-16 ouvert, bien sûr. Appelez-nous. Est-ce trop ambitieux au vu du mercato marseillais ? Et s'il y avait une éclaircie dans le ciel sombre de l'OM ? On en parle dans un instant. L'avis tranché de François également. On va parler de la EA Ligue 1 Games. À quoi ça sert concrètement? Et puis les Girondins de Bordeaux, supporters bordelais, êtes-vous inquiets pour la saison à venir? Recrutement timide pour l'instant. Est-ce que ça va s'accélérer? Les dernières infos transfert que bordelaise avec Saber Desfarges sur place à Washington. Et puis messieurs, ce soir, je le disais tout à l'heure en préambule, on va réécrire l'histoire du football. Oui, on a une chance ce soir. Vous avez une chance de changer le cours d'un match, de votre match. Si vous deviez changer un résultat dans votre histoire, lequel choisiriez-vous? Un seul match.
Mais ça peut être une défaite en victoire et inversement.
Il y a tout. Il y a tout, effectivement.
Et inversement.
Tu peux souhaiter le malheur à.
Bah, de toute manière,
si
tu transformes une défaite en victoire, c'est forcément que tu transformes la victoire en défaite.
Bah, ça dépend dans quel camp tu te situes.
Enfin, sauf si t'es le seul à vouloir un nul.
Le truc, nul. Le truc, il a aucun intérêt. Moi, je voulais un nul.
Si t'es un rageux, tu peux souhaiter une défaite, changer une victoire d'un adversaire, d'une équipe que tu supportes pas en défaite. En revanche,
Là, faut vraiment être un frustré.
Tu changes le cours de match en ta faveur.
Non, mais le réflexe qu'on a tous, c'est de transformer des défaites en victoires.
Bah, bien sûr. Voilà.
Exactement. Hashtag changer un résultat sur la page Twitter de l'Afterfoot.
C'est bon ça, Coco.
C'est bon ça. Hein, on fait 23 heures.
Rien que ça, on pourrait tenir 3 heures avec les autres.
Oui, mais on en a parlé avec Nico. Mais oui, carrément. Vu qu'on est le 21 juillet, ce serait peut-être une réflexion à mener.
Je sais
3
pas.
Heures non, parce qu'on a un programme et on fait aussi de l'info, hein. On fait pas que de la fiction dans l'after, tu sais bien.
On n'est pas que les compteurs.
Jamais de la fiction.
C'est vrai.
Non mais c'est pas de la fiction, c'est de l'émotion.
C'est de l'émotion. Pas pareil. On va écrire l'histoire ce soir, effectivement, avec François Malardo et Pierre Ducrot. Vous avez le vôtre en tête, c'est bon? Le match.
Oui, moi il va passionner personne, si ce n'est les supporters.
Attends. Ne tease même pas.
Ok, je ne tease pas.
Si tu veux mon avis, ne tease même pas.
Enfin, là, tu m'as coupé au moment où je disais juste ça va passionner personne. Donc c'est moyen.
Il y a deux matchs qui écrasent, qui sont majoritaires sur le Twitter Afterfoot. Hein. On n'en parle pas pour l'instant. Ça paraît assez évident comme ça. Deux matchs.
Tu dis pas.
Je dis rien.
D'accord.
On verra ça à partir de 23h. Vous pouvez nous appeler également au 32-16 hein, pour nous dire quel match vous voulez changer dans votre histoire intime avec le football, avec votre équipe ou votre sélection, bien sûr. Saber Desfarges est avec nous, Mister Washington DC. Good evening, Saber. Ah non, c'est l'après-midi là-bas. Oui.
Hey, good afternoon. Good afternoon, Nico. Salut tout le monde.
Comment ça va, Saber?
Salut, Saber. Washington. Kazer, Washington, il paraît qu'il fait hyper chaud.
C'est quoi cet accent, François?
Quoi non, Saber?
C'est quoi cet accent?
Ah non, c'était moi.
C'était Pierre. Ah, pardon.
Ah bah, c'est un accent franglish, hein, tu connais.
Saber, avec sa voix de crooner français, avec son accent français en parlant anglais, de faire des ravages à Washington DC.
M'en parle pas.
Aïe.
Saber, il fait très chaud à Washington. Ça va être très chaud ce soir sur la pelouse.
Ouais, période caniculaire là, on est en train de la traverser, on est en plein dedans, période un peu particulière puisque la température ressentie atteint les 45 degrés actuellement à Washington. Donc c'est très très élevé, sans parler du taux d'humidité qui est au-delà de 80%.
Ah oui, il va falloir composer avec ça. C'est pas à Washington, c'est à Orlando là que tu te trouves.
Ouais, bah écoute, non. Pourtant, bon, non, c'est bien à Washington, écoute, hein. C'est bien à Washington, mais ouais, bah non, il fait extrêmement chaud. C'est quelque chose qui est très compliqué pour les joueurs et les staffs des quatre clubs concernés depuis le début de la semaine. Mais là, on est en train d'atteindre le pic de cette canicule aujourd'hui. Et c'est bête, parce qu'il y a deux matchs à disputer ce soir. Et tout à l'heure, à 18h, donc à minuit, heure de française, il fera plus de 35 à 40 degrés. Et puis, pareil, la température redescendra à peine au-dessous des 35 degrés. Lorsque l'Olympique de Marseille affrontera Saint-Etienne vers minuit, vers 3h du matin, pardon, heure française. Donc oui, c'est assez compliqué comme condition climatique pour les quatre clubs concernés.
Marseille, croyez-vous à un début d'éclaircie dans un ciel très obscur? Effectivement, ce matin, on a lu, on va le dire, dans le journal L'Équipe, une interview en longueur du nouveau coach marseillais, Andrés Villas-Boas, qui annonce, ça a fait les gros titres évidemment, ambition, podium pour l'Olympique de Marseille. Podium, ça peut être 1, 2 ou 3. C'est vrai qu'on en est loin, il y a quelques semaines, de ce podium, effectivement, pour l'Olympique de Marseille, au vu du recrutement, au vu du fair play financier, qui est une vraie lourdeur pour l'OM. Mais moi, messieurs, je trouve que, dans tout ce que je lis, ce que j'entends, de ce que dit Saber également, on sent qu'il y a une équipe remobilisée, qui ne veut surtout pas revivre une saison comme la précédente. Dimitri oui. Payet, il veut rester, qui veut oublier la saison précédente. Un Mandanda qui est parti à Merano, qui n'a pas supporté sa pire saison, comme il a dit, de sa carrière avec Marseille la saison dernière. Un Thauvin qui est motivé, qui veut rester également. Un entraîneur, Villas-Boas, qui a une vraie déclaration d'intention. On y va pour être ambitieux. On a également des arrivées, Dario Benedetto, peut-être le grand attaquant. Là, je me projette un petit peu pour l'instant. 29 ans, meilleur buteur du championnat argentin il y a deux ans seulement. Est-ce que vous y croyez, messieurs? Est-ce que finalement, s'amorcent quelques indicateurs positif pour l'Olympique de Marseille?
Pierre. Moi, si je peux me permettre, je remettrai les choses chronologiquement dans l'ordre. C'est pas l'OM ou la saison dernière qui donne envie aux joueurs de l'OM de faire différemment. C'est plutôt un contexte et une situation de chaque joueur qui soyons clairs ne peuvent pas trouver autre chose que l'OM. Il y a des salaires exorbitants. Ces joueurs-là que tu as cités, mis à part peut-être Thauvin, tout le reste, s'ils partent de l'OM, c'est forcément en faisant des efforts financiers. Il faut en plus trouver preneur, ce qui était loin d'être facile. Et donc finalement, ils sont quasiment obligés de rester à l'OM. Et une fois qu'ils sont obligés de rester à l'OM, effectivement, je te rejoins. Effectivement, t'as plus qu'une seule solution, c'est se dire, bah il faut se bouger, faut se remettre au boulot, et surtout, faut pas revivre ce qu'on a vécu l'année dernière. Impossible. Et à ça vient s'ajouter, tu as raison, la fraîcheur d'un nouvel entraîneur. Où on sait très bien comment ça marche dans le foot quand t'as un nouvel entraîneur qui arrive, tout le monde est beau, puis tout le monde remet un peu les compteurs à zéro. Tu rebosses. Il y a pas le passif d'un, deux ou trois saisons que tu as avec l'ancien coach, avec des relations qui sont plus ou moins tendues, etc. Donc tout est beau, tout est neuf. On écoute beaucoup plus le coach. Moi, le truc symbolique à la limite qu'on pourrait retenir, c'est Payet à gauche. Payet à gauche, il avait pas très envie avec Rudy Garcia. On va pas se tromper. Il a été resitué dans l'axe parce que c'était ses envies. Et puis là, on découvre Dimitri Payet très en forme, très affûté. Qui peut jouer à gauche, ça ne le dérange pas. Il l'a dit lui-même aujourd'hui.
Il a dit
aujourd'hui.
C'est la première fois que je joue à gauche depuis mes débuts avec Nantes.
Bah voilà. Il y a 12 ans. Moi, je suis pas d'accord parce qu'il a, même à l'OM, il avait rejoué à gauche. Sauf que c'était pas très probant. Là aujourd'hui, il est d'accord pour jouer à gauche. Il a fait un bon match contre Bordeaux. Il est capable. En plus, moi, je suis persuadé de jouer à gauche s'il en a envie. Mais il faut faire des efforts défensifs. Il faut faire plein de choses. Donc voilà, on retrouve finalement juste, je pense, des joueurs avec des compteurs remis à zéro, avec de la fraîcheur. Et effectivement, comme ça. Et ce sera pas le même OM que l'année passée, ce sera peut-être plus l'OM de l'année précédente.
François, on joue le podium cette saison, dit Villas-Boas. Est-ce que c'est présomptueux? Est-ce que c'est réaliste?
C'est ni présomptueux.
Il attend encore, il a dit dans son interview, 4 à 5 joueurs, voilà, ce qui pourrait changer la face de l'OM.
Ça en revanche, c'est ce qui m'intéresse le plus. Non, c'est ni présomptueux ni réaliste. Ce qui est réaliste, et ce à quoi moi je crois, parce que ce sont les faits, c'est la politique d'austérité que doit obligatoirement mener l'Olympique de Marseille, qui est placé dans le viseur du fair play financier, c'est-à-dire que c'est un club qui doit afficher, je le disais ce matin dans les grandes gueules du sport, qui doit afficher, comme on le sait, à la fin de l'exercice 2019-2020, un bilan de maximum 30 millions d'euros de déficit, et qui sur l'exercice suivant, 2020-2021, doit arriver à zéro. Donc dans cette politique d'austérité obligatoire, Villas-Boas a fait des effets d'annonce ce matin, parce que je pense que en bonne intelligence et entraîneur de l'Olympique de Marseille, il ne peut pas dire autre chose, pour les supporters, pour sa direction, mais aussi pour les joueurs, parce qu'il porte quand même le maillot olympique de Marseille, et tu peux pas avoir un nouveau coach tout blanc, tout neuf, et tu pars d'une plage blanche avec, ouais. Tu entraînes tes joueurs
dans la préparation
seulement. Dans la préparation seulement pour l'instant. Et qui aurait d'ambition de dire, bon, moi, si on est entre 5 et, allez, 5 et 10, avec les conditions que je vais avoir, ce serait une saison entre guillemets satisfaisante, parce que là les joueurs ils vont dire non, là t'es un baltringue. Donc il est obligé de faire ses effets d'annonce, il est obligé de parler du podium.
Tu peux rien dire. Moi aussi, tu ne peux rien dire.
Non, alors c'est difficile
le
de ne rien dire quand tu es nouveau.
Jamais d'avoir rien dit.
On non, c'est difficile.
D'avoir été trop ambitieux.
Alors en com, c'est difficile avec un nouvel entraîneur et après la saison qu'a traversé l'Olympique de Marseille et les remises en question profondes d'avoir au moins un acteur qui ne dise rien. Là, il se trouve que Héro a parlé il y a moins de 15 jours. Maintenant, c'est le tour de Villas-Boas. Il ne peut pas ne rien dire. En revanche, il peut effectivement dire certaines choses et que ça ressemble à un concert de violon.
Il a apporté une petite nuance.
Et pour moi, c'est un concert de violon.
Ça serait bien d'y arriver dans les deux ans. Si c'est cette année, tant mieux, mais dans les deux ans. Il a apporté cette petite nuance-là.
Personne n'a la patience.
Voilà, c'est ça. Alors,
personne
n'a la patience, mais lui c'est les
petites, mais ce qui m'intéresse beaucoup,
Saber.
C'est la phase de recrutement. L'effectif n'est pas encore complété. On va attendre fin août.
On rappelle l'arrivée également d'Alvaro González, un défenseur central expérimenté, quasiment 300 matchs en Espagne pour lui, rugueux, dur sur l'homme, et qui est là pour densifier, muscler la défense centrale. Boba Camara et Chalet Tatsar pour l'instant qui tenaient la charnière. Saber à Washington qui suit l'OM depuis quelques jours maintenant dans son déplacement outre-Atlantique. On a quitté des mines tristes, des joueurs quasi déprimés en fin de saison dernière. Ils sont comment les Payet, Mandanda, Thauvin et d'autres joueurs que tu as croisés, mais si Thauvin est blessé?
Écoute, l'ambiance a l'air plutôt bonne. L'ambiance qui règne est plutôt positive de ce que j'ai pu voir depuis le début de la semaine ici à Washington. Il y a des sourires, beaucoup de rires, mais il y a aussi beaucoup de travail. André Villas-Boas qui essaie de mettre le plus rapidement possible ses projets, ses idées de jeu ici du côté de l'Olympique de Marseille. On a pu voir d'ailleurs d'un point de vue tactique, très souvent il mettait en place un 4-3-3 avec Dimitri Payet à gauche. Ça a plutôt bien réussi contre Bordeaux avec un doublé. Mais pour l'heure, de ce qu'on a pu voir, tout se passe plutôt bien. Et puis, visiblement, le message aussi passe bien entre Villas-Boas et les cadres de cette équipe, comme Dimitri Payet ou encore Steve Mandanda. L'ambiance est plutôt bonne, elle est au beau fixe. Vous allez me dire, c'est normal, c'est un début de saison. Reste à savoir comment ça va se passer lorsque les premières difficultés surgiront. Mais pour l'heure, à Washington, honnêtement, c'est un petit peu comme le temps ici, le ciel est bleu.
Mandanda, il paraît qu'il a fondu, il est allé à Merano faire une cure d'amincissement. Payet aussi, tu les trouves fit, comme on dit, tous ces joueurs-là?
Oui. Alors évidemment, pour Steve Mandanda, c'est criant. La différence est majeure. Il a perdu énormément de poids en l'espace de quelques semaines avec ce stage à Merano. Mais pour le reste, j'ai pas le sentiment que parce que André Villas-Boas est arrivé cet été, que les joueurs sont encore plus fit que lorsque Rudy Garcia était à la tête de cette équipe. Évidemment que les joueurs, on les sent plutôt bien physiquement parce qu'il n'y a pas eu tant que ça de turnover à l'occasion de cette rencontre face à Bordeaux. Et finalement, l'Olympique de Marseille a réussi à faire la différence en deuxième période. Donc physiquement, on sent une équipe qui effectivement est en train de monter en puissance, qui semble être au point. D'ailleurs, ce soir contre Saint-Etienne, à l'occasion de cette finale des I1 Ligue 1 Games, il devrait y avoir très peu de changements par rapport au 11 qui a débuté. Il y aura aussi un autre match qui arrivera très vite. Ce sera le dernier d'ailleurs de la tournée américaine pour l'Olympique.
C'est quoi la compo annoncée, Saber?
DC United.
La compo.
Je l'ai pas. Je vais pas dire de bêtises. Je l'ai pas la compo annoncée.
Ouais, donc
sais juste simplement que ça devrait ressembler grosso modo à ce qu'il a mis en place contre Bordeaux. Il est vrai qu'il n'y a pas non plus pléthore de choix. Alvaro González est arrivé à Washington. C'était hier soir, accompagné d'Andoni Zubizarreta, le directeur sportif de l'Olympique de Marseille. L'occasion était donc belle pour rencontrer ses partenaires pour la première fois, pour parler aussi, échanger avec André Villas-Boas, même si les deux ont déjà échangé au téléphone il y a quelques jours. Mais Alvaro González, il ne devrait pas disputer ses premières minutes dès ce soir. On l'attend davantage mercredi prochain contre DC United, l'équipe locale de Washington, emmenée par Wayne Rooney notamment.
Ok Saber, tu restes avec nous en direct de Washington DC dans un instant. On va revenir, on reste sur l'Olympique de Marseille. Quelle ambition pour l'OM cette saison? On va attendre de suivre le mercato marseillais, bien sûr. Êtes-vous d'accord avec le nouveau coach de l'OM, André Villas-Boas? Une place sur le podium, pourquoi pas dès cette saison? Des réactions déjà au 32-16. On sera avec Christophe dans un instant. L'after continue. Revient avec Pierre Ducrot et François Malardeau. À tout de suite.
RMC, l'Afterfoot, Nicolas Jamain.
Oui, l'after est là jusqu'à minuit avec Pierre Dupro, avec François Malardeau. Je vous rappelle ce hashtag qui explose, qui fait exploser le compte Twitter de l'After Foot. Changer un résultat, si vous pouviez changer un résultat, un seul, une victoire, une défaite d'ailleurs, lequel changeriez-vous? Il y a énormément de propositions, messieurs.
Mais c'est une super parfois, idée, les amis. Hein.
Parfois un peu loufoque, d'ailleurs. C'est assez drôle. Sur les barrages, l'Orient 3.
Non, mais après, chacun a son curseur émotionnel et il le place là où il le veut. Là, on va le vérifier avec Pierre. C'est une super idée.
Le score de France-Irlande en 2009, légère. La qualification pour Nice Nas. Certains auraient voulu le changer, ce résultat.
Ah ouais. Ça, je peux les comprendre.
C'est intéressant.
Ouais. Je peux les comprendre.
Ouais, mais enfin. Non, c'est la suite qui va pas, c'est pas ce match-là pour moi.
Ouais. Mais bon, sans ce match-là, il y a pas le drame à Neisna. Hein, François Malardo.
On en a déjà parlé lundi dernier.
Encore à la Fédération de football. Peut-être.
C'est l'extérieur, peut-être.
Messieurs, une info, puisqu'on parle de Marseille avec Sabadé Farchka à Washington, une info RMC Sport également. Dario Benedetto, attaquant de Boca Juniors, c'est officiel, n'est pas dans le groupe de Boca Juniors pour les huitièmes de finale aller de Libertadores. Il n'est pas blessé ce joueur. Ça veut dire qu'a priori,
ça avance.
Hein, on va voir s'il peut rejoindre Marseille.
Le bébé se présente bien.
Ouais.
D'accord.
D'ailleurs,
on n'a pas parlé, Nico, je te coupe un tout petit peu, mais dans l'interview, c'est ce qui est intéressant aussi dans l'interview de Villas-Boas, c'est qu'on apprend enfin que à Marseille, un directeur sportif, son adjoint, un coach vont travailler ensemble, qu'ils s'entendent bien, qu'ils ont un peu la même vision des choses, ou qu'en tout cas tout est très clair entre eux. Qu'un joueur, par exemple, comme Benedetto va arriver parce que le coach le connaît par cœur, il le dit dans l'interview, c'est un joueur qu'il aime beaucoup, qu'il a suivi, etc. Enfin voilà, c'est quelque chose pour moi de très rassurant pour l'OM et de très différent par rapport aux trois dernières saisons.
Mais c'est une base. C'est logique, c'est-à-dire qu'on se rassure avec quelque chose qui devrait être le béaba.
Alors ouais, mais qui n'était pas le cas.
On a ça. Oui, qui n'était pas forcément gagné. Mais maintenant on a ça. À partir de là, bon, Benedetto, on va voir. Hein. On va voir. Moi, je n'ai.
Mais oui, si, juste pour clarifier,
au moins ils ont tous
par rapport à Benedetto.
Vas-y.
Juste par rapport à Benedetto, des retours qu'on a pu avoir ici à Washington, l'accord n'est pas encore entériné, il n'est pas encore conclu. En revanche, on se veut extrêmement optimiste quant à la réalisation de ce transfert. Il est assez compliqué, mine de rien, ce transfert d'un point de vue d'assurance, d'un point de vue de beaucoup de points. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, Benedetto n'est pas encore un joueur de l'Olympique de Marseille. On se rapproche doucement mais sûrement d'un accord. Et on espère même du côté de l'OM que le joueur arrive, pourquoi pas la semaine prochaine, avant même la fin de la tournée aux US, puisque tu l'as dit, il n'est pas très très loin, l'Argentine, c'est proche, mine de rien, des États-Unis.
Voilà pour Dario Benedetto. Christophe, au 32-16, supporter marseillais qui nous a appelé. Salut Christophe.
Bonsoir messieurs.
Bonsoir Christophe.
Bon, on n'est pas en train de dire que le monde est merveilleux autour de l'Olympique de Marseille. On se demande si peut-être il y avait quelques éclaircies qui apparaissaient dans le ciel très obscur marseillais depuis quelques mois déjà. Est-ce que tu l'observes comme ça ou tu restes très pessimiste et inquiet?
Non, je vais essayer d'être optimiste quand même, parce que c'est vrai que là, on avait un temps, il était orageux, il y avait de la grêle, il y avait des sauterelles à un moment donné quand même, faut dire ce qui est, ça a duré longtemps. Donc on va essayer d'être un peu optimiste. Après, le fait de l'arrivée de Villas-Boas, c'est très intéressant, parce que déjà, donc du coup, ça veut dire qu'on n'a plus le coach de l'année dernière, Rudy Garcia, c'était très compliqué avec nous, même sur sa tactique, on n'a jamais compris, le plan de jeu, on n'a jamais compris non plus. Là, on a quelqu'un qui a l'air d'être plus ou moins franc, qui joue pas le jeu de la langue de bois. Il dit ce qu'il veut, il répond sur les joueurs qui est intéressé. Ça change beaucoup des trois dernières années qu'on a eues. Maintenant, on va voir. Moi aussi, ce que j'attends en plus de Villas-Boas, c'est des joueurs qui ont un peu sali le maillot l'année dernière. Un Payet qui a fait une saison, on va dire, quelconque. Un Mandanda qui a fait une saison, je sais pas, au mieux, je dirais, pitoyable. Bon, Adil Rami, ça s'est réglé, on va dire. Il y a beaucoup de joueurs qui doivent montrer pourquoi ils sont à l'OM.
Ils doivent se racheter, c'est ça?
Ben, ils doivent se racheter, tout à fait. Ouais. On n'est pas, sans être méchant, on n'est pas à Lorient où ça peut passer. On peut faire une saison un peu ratée et personne ne dira rien. La saison dernière, il faut dire ce qu'il y a.
Non, si je peux permettre de te corriger, c'est peut-être pas les supporters qui en premier te diront quelque chose dans d'autres clubs, par rapport à l'OM effectivement, mais dans les autres clubs, si tu fais des saisons catastrophiques, crois-moi que tu prends cher quand même. Hein. Alors peut-être pas avec les supporters, mais avec tes dirigeants, avec d'autres personnes aussi, ça passe pas non plus. Ça passe pas non plus. On peut pas dire que tu peux faire des mauvaises saisons ailleurs, quoi. C'est pas souhaitable.
Tout à fait, mais je voulais dire par rapport à la, on va dire par rapport au public,
à la pression populaire.
C'est vrai que tu te dois de faire plus, parce qu'on va dire que pour un Marseillais ou pour un supporter de l'OM, l'OM, en fait, c'est dans sa vie. Si tu joues pas bien, le dimanche, le lundi, à Marseille, il y a tout le monde qui fait la gueule. Mmh. C'est comme ça, quoi. Donc, c'est vrai que si tu vas aller acheter ton pain ou quoi que ce soit, on va te dire, bon, c'était quoi ce match de merde que tu nous as fait hier? Il va falloir que tu te sortes un peu les doigts, mon pote. Donc, ça.
Ouais, ils sont livrés maintenant.
Moi, j'attends beaucoup, mais c'est vrai que, comme il a dit, on attend 4-5 joueurs, c'est pas rien. Est-ce que ce sera 4-5 joueurs?
Alors, toi, tu comprends.
Je réagis. T'as pas entendu, Christophe, mais tu sais qu'avec le nouveau sponsor Uber Eats, maintenant, même s'ils perdent, ils vont pouvoir se faire livrer à la maison le lendemain.
Ils ont plus
à
la boulangerie maintenant.
Ouais, mais c'est le livreur qui veut leur dire.
Christophe fait ce match de merde.
C'est vrai, le livreur,
il aura l'accent.
Bon, pardon.
Christophe, tu parlais, il a évoqué Villas-Boas, hein. Il attend encore 4 à 5 recrues, il y aura peut-être d'autres départs.
C'est pas rien.
Luis Gustavo est encore là. Morgan Sanson est encore là également.
Ah, mais il a dit qu'il comptait sur eux.
Christophe a donné une réponse, là.
Vas-y, Christophe.
Pardon?
Non, t'as dit, j'ai bien entendu, il y aura rien, c'est ça, hein?
Non, il dit c'est pas rien, 4 à 5 joueurs, Christophe.
C'est pas rien, j'ai dit 4 à 5 joueurs.
Ah, ok, d'accord. Si non, bah, j'ai compris, il y aura rien, et moi, je suis pas loin de penser que, avec les finances de l'OM, voilà, comment,
c'est toute l'équation.
Mais bien sûr.
C'est toute l'équation. C'est en ce sens que je dis que l'entretien de Villas-Boas, il est bien obligé de le faire, mais il te vend du rêve.
Il faudra vendre avant. D'accord. Avant d'acheter 4 à 5 joueurs.
C'est là qu'il met un peu la pression sur Héro, mais aussi sur Valentin et sur Zubizarreta. Parce que bon, pour l'instant, ça a été plus ou moins des emplois fictifs parce qu'ils n'avaient pas grand-chose à faire ces 3 dernières années. Mais cette année, ils sont sur le devant de la scène. On attend quand même beaucoup d'eux, c'est-à-dire de trouver des joueurs dans nos finances, c'est-à-dire très bas en Europe. On va dire que ça va être compliqué de trouver. Ouais. Il nous faut un arrière-gauche, tout le monde le sait. Il faut un attaquant, c'est plus ou moins réglé. Un milieu de terrain, on va dire, ce serait pas de trop. Un défenseur central de plus, on dirait pas non plus. Ça fait quand même tous les postes quand même d'une équipe qu'ils ont à voir.
Tu sais ce que peut regretter, je pense, les supporters de l'OM, Christophe, je pense, c'est que les années où l'OM a eu un peu d'argent à dépenser quand même, parce qu'il y a eu de l'argent de dépenser à l'OM ces dernières années. Zubizarreta, directeur sportif, n'a eu effectivement que très peu de pouvoir parce que c'est Rudy Garcia avec Jean-Jacques Herrero qui faisait les choses, qui le laissait sur le bas-côté. Ça, c'est une réalité. Et aujourd'hui où on a peut-être quelqu'un, en tout cas, on a envie de savoir, quelqu'un de compétent à la tête de la direction sportive. Ce pauvre homme, il a plus un rond dans le portefeuille, donc compliqué pour lui de faire des choses.
Ah, je suis entièrement d'accord sur ça, parce que ça a été, il y a eu beaucoup de caprices. En plus, moi, de ce que j'ai 32 ans, de l'historique que j'ai des recrues qu'on a faites, il faut pas, l'OM, ça achète pas des grandes stars pour les incorporer à l'équipe. Ça prend des bons joueurs peut-être un peu ailleurs, et après ça les fait progresser, ça devient des grandes stars. C'est plutôt ça. Je pense à Ribéry, je pense à Drogba. Ouais. Voilà, c'est des joueurs qui étaient très bons à Guingamp, à Galatasaray.
Hop, on les a. Non, mais il y en a plein, t'as raison.
Des très bons joueurs.
Christophe, sur les 4 à 5 joueurs à recruter, tu voudrais en priorité quel poste à renforcer?
En priorité, un attaquant, c'est obligé. Mais après, moi, j'ai un gros problème avec Jordan Amavi, donc il me faut absolument un arrière-gauche. Ouais. Ou même on met autre chose, on met un Espagnol breton, mais n'importe quoi à la place d'Amavi, ça peut le faire. Parce que franchement, c'est pas possible. Je ne lui vois aucune qualité. J'ai rien contre lui personnellement, mais footballistiquement, j'ai jamais vu quelqu'un défendre aussi loin de son attaquant.
Quand tu veux pas te mettre en danger, ça.
5-6 mètres, il fait un recul frein à 6 mètres. J'aurais te dire, je pense que j'arrive à le passer, moi.
Ouais, t'évites le duel qu'il
a perdu. Saber Desfarges est avec nous. Amavi a perdu quasiment tous ses duels lors du dernier match à Washington.
Oui, ça a été un petit peu compliqué, mais
Après,
c'est difficile de juger en fait une prestation, notamment celle de Jordan Amavi, à travers un simple match amical, mais il n'a pas été plus mauvais qu'un autre. Jordan Amavi, je sais pas si vous partagez en fait mon opinion, il n'a pas été si catastrophique que ça, honnêtement, face à Bordeaux. En tout cas, c'est pas lui qui a été aussi dépassé. C'est pas lui qui est à l'origine, par exemple, du but de Pablo.
Après, il y a une chose par rapport à Christophe, ce que tu disais, tu voulais te montrer délibérément optimiste. Moi, ton optimisme, d'abord, j'ai du mal à le lire, à le deviner dans ce que tu nous brosses comme portrait de l'Olympique de Marseille. Et la deuxième chose, c'est vrai que c'est le jeu pour beaucoup de supporters, et dans le Sud comme au Nord, ça peut être la même chose. Peut-être que dans le Sud, c'est un peu plus spontané de faire de certains joueurs des boucs émissaires. Mais je sais pas ce que t'en penses, mais peut-être que, à part s'il y a vraiment un manquement de respect au maillot, comme par exemple c'est le cas entre le Paris Saint-Germain et un joueur brésilien bien connu, mais après peut-être certaines fois leur lâcher la grappe à certains joueurs, parce que leur mettre la pression, ça ok, si les dirigeants le font pas, ouais, pourquoi pas à l'occasion du match,
Mais après, je sais pas si c'est pas quelque chose aussi dans un club aussi qui a cette particularité, qui est très chaud. Et comme tu l'as dit, et là je suis d'accord avec toi, quand vous perdez le match, bon ben du lundi au vendredi, vous faites la gueule à Marseille. Mmh. Peut-être revoir un peu, je sais pas si c'est utopique de ma part de le dire, mais de mettre un peu une petite distance parfois entre certains joueurs que vous prenez un peu dans le viseur quoi et je sais pas si ça peut parfois les idées c'est culturel mais c'est aussi une atmosphère
tu veux dire qui devient négatif pour le joueur
qui Marseille c'est une atmosphère particulière
quand tu parles avec d'anciens joueurs qui ont été
à l'Olympique de Marseille des fois ils te disent ou ils te m'est arrivé des fois de les entendre me dire attends moi je l'expression je mouillais le maillot et malgré le fait que je mouillais le maillot je me faisais engueuler parce que moi on me prenait plus pour le gars qui avait été parachuté là parce que je connaissais l'entraîneur d'avant que j'avais connu etc alors que en fait moi j'étais content de venir jouer à l'Olympique de Marseille et je sentais qu'il y avait une pression ben parfois c'était difficile de la supporter.
Ouais, t'as même des joueurs qui sont pas encore à l'OM et qui veulent pas y aller à cause de ça. Ça a toujours été le contexte marseillais.
Je dis pas qu'il faut bouleverser ça.
Faut que tu sois costaud avec ça, sinon faut pas y aller, quoi.
Oui, c'est vrai aussi.
Je peux répondre du coup à Pierre parce que c'est une question intéressante, je trouvais.
Vas-y.
J'entends tout à fait ce qu'il dit, hein. Mais c'est vrai que quand tu signes à Marseille, en fait, tu peux pas t'attendre à avoir le bon côté quand ça marche bien. Moi, il y a 2 ans quand on a fait la finale, j'étais donc en quart de finale, j'étais au stade, en demi-finale, j'étais au stade. Il y avait une ambiance, c'était de la folie. Ça vibrait de partout, donc on peut pas espérer vivre un moment comme ça où tout se passe bien, on est sur un nuage, et après quand ça se passe pas bien, de dire ah ouais mais les gars soyez un peu cool avec nous, on fait ce qu'on peut. L'année dernière, pour moi, ils ont pas fait du tout ce qu'il fallait.
Tu penses pas que c'est parce que ça s'en mange mal très vite, que ce soit en championnat, mais surtout en Europa League, et que ça a plombé les têtes de certains joueurs.
Il manquait de l'honneur. Il a manqué de l'honneur dans ses joueurs. J'ai l'impression que Villas-Boas l'a compris. Ouais. Tous les joueurs qui l'approchent, c'est des joueurs avec des boules assez importantes. Benedetto, il a l'air d'en avoir. Voilà. Alvaro, qui l'a fait venir, je trouve qu'il en a aussi. J'ai l'impression qu'il a vu qu'il manquait peut-être un peu de caractère à certains joueurs. Touvain, je l'aime bien, c'est un bon joueur. Mais il va pas gueuler, il va pas se transcender. Payet, je le vois pas le faire non plus.
Et Luis Gustavo, tu le vois pas faire?
Non, pas... les Heinze, les Sana, ça... les Dimeco.
T'as raison, Christophe.
De gueule avec des trucs.
Et ça, c'est le premier diagnostic qu'a dû faire Villas-Boas. Il manque du caractère, effectivement.
Non, moi, je rejoins Christophe, honnêtement.
J'ai l'impression qu'il a compris qu'il manquait un peu de caractère et de grinta dans cette équipe.
Payet, ça doit être un joueur extraordinaire techniquement quand ton équipe marche bien, effectivement, mais c'est pas celui qui va sortir l'équipe de quand ça va pas. Effectivement, je rejoins Christophe. Il faut des gars de caractère pour que ces joueurs-là puissent s'exprimer.
Mais les gars de caractère, il faut que ce soit de bons joueurs. Parce que si t'as un gars de caractère seulement, mais que c'est un joueur qui est sur le déclin, voire qu'il est même catalogué comme mauvais joueur, il peut avoir du caractère, hein, mais personne ne l'écoutera. Ils ont toujours Luis Gustavo, qui est quand même un joueur, je pense, aussi de caractère, parce que moi j'oublie pas, il y a 2 ans c'était Christophe quand vous mettez une piquette à Metz là, 6-2.
Ouais. C'est l'année où
c'est ça, 6-2. Et à la fin du match, Luis Gustavo, il met une soufflante aux joueurs.
Mais bien sûr.
Parce qu'ils encaissent quand même 2 buts.
Mais là,
ils ont un patron. Et en plus, t'avais Adil, alors le bon Adil, qui est aussi un joueur, et pour le connaître un petit peu. Ouais, qui peut être un leader, après leader, mais c'est qu'il n'hésite pas à l'ouvrir.
C'est pas un joueur de caractère non plus.
Si, Adil, c'est un joueur de caractère.
Non, mais pour moi, c'est deux cas très différents, François. T'en as un qui s'est perdu tout seul, c'est Adil Rami, ça a été compliqué pour lui.
C'est la saison dernière.
Mais il n'y a pas de, je pense même pas qu'il y ait de corrélation avec l'année de l'OM et Rudy Garcia ou ses coéquipiers, etc.
Je crois
qu'il s'est perdu tout seul. Luis Gustavo, pour moi, ça a été compliqué parce qu'il y a eu des choix de fait, on l'a baladé de derrière au milieu et plus souvent derrière, et il a perdu sa capacité à être très bon sur le terrain. Et quand t'es leader et que tu deviens, comme tu le dis, mauvais sur le terrain, t'as plus de mal à te faire entendre ou à emmener les autres avec toi parce que t'es plus bon sur le terrain. Donc c'est compliqué. Mais ça, pour moi, c'est plus des choix tactiques qui l'ont amené à ça, Luis Gustavo.
Merci Christophe d'avoir appelé au 32-16.
Merci. Juste une truc par rapport à ce que vous avez demandé, si je pouvais changer un match.
Ah, mais vas-y, bon, tiens.
Voilà, du coup, je le dis.
Vada, la main de Vada.
L'OM contre l'Étoile Rouge de Belgrade.
Ah, oui.
Okay. Ah oui, aussi.
J'avoue,
aussi.
Je le ferai, mais après, je me pose la question parce que vu que c'est ce qui nous a permis de gagner en 93. Et voilà. Me pose la question. Donc,
exactement.
À voir.
Vata, pas Vada.
Mais du coup, ça veut dire que j'en aurai au moins une sûre en 91, peut-être 2 en 93, mais bon.
La finale de 91, tu te souviens dans la prolongation, quand Stojkovic rentre fatalement trop tard, et il fait un centre en retrait pour Papin qui la met au-dessus.
Ouais. C'est ça.
Ouais, celle-là. Non, putain, c'est, celle-là, c'est, JPP, bon, normalement. Quand tu vois le ballon arriver, tu dis, c'est bon, ils vont marquer. Et putain, ouais, il envoie au-dessus. Mais on va en parler aussi. Hein. Des fois, il y a le destin des matchs hein, que tu sens quand t'es joueur.
Ça, c'est le rendez-vous à 23h.
Je pense que dans le futur, ça nous a aidé. Hein. En 93, on est une équipe qui est un peu moins bonne, mais.
Exactement.
Ça nous a fait grandir.
Comme France-Bulgarie 93. Il y a les défaites qui permettent de reconstruire et d'être meilleur ensuite. On en parle à 23h. Ça, c'est le hashtag changer un résultat, bien sûr. On vient dans un instant dans l'after. Merci d'avoir appelé Christophe au 32-16. Dans un instant, Jean. Supporter marseillais sera avec nous également. On prolonge le débat sur l'Olympique de Marseille. Est-ce trop ambitieux de viser un podium dès cette saison? C'est la déclaration d'Andrés Villas-Boas, l'entraîneur de l'OM. Pierre Ducrot, François Malardo, c'est l'after. On est ensemble jusqu'à minuit. À tout de suite.
RMC, l'afterfoot, Nicolas Jamain.
Et nous, on est là ensemble jusqu'à minuit avec Pierre Ducrot, avec François Manardo, c'est l'after, notamment ce débat sur l'Olympique de Marseille, ces déclarations qui a beaucoup fait parler évidemment et réagir sur les réseaux sociaux. Andrés Villas-Boas annonce en tout cas l'ambition, une place sur le podium. Pourquoi pas cette saison et surtout la saison prochaine pour le coach portugais de l'Olympique de Marseille. On continue le débat avec Saber Desfarges, toujours en direct avec nous à Washington, et Jean au 32-16 qui nous a appelé. Salut Jean.
Salut à toute l'équipe de l'after de l'été. C'est l'after de l'été. On continue le débat sur l'OM. Alors bon, le débat c'est bonsoir. Est-ce qu'on a, on peut espérer une troisième place cette saison? Bon, on sait que la première et deuxième c'est promis à Paris et à Lyon, ça y a pas de souci.
Lyon, tu vas vite en besogne, ouais.
Moi, franchement, Lyon, je les vois bien. Enfin, bon, c'est mon pronostic, hein, maintenant.
Mais promis, Lyon, non. Que le Paris Saint-Germain va avoir une des deux places, je pense que là, on
vas-y, Jean. Pas trop.
Non, mais le Paris Saint-Germain, on le sait depuis que le Qatari se sont arrivés, on sait que bon, c'est la place numéro 1,
de temps
en temps numéro 2 qui est plus, mais bon, là, il n'y a pas de suspense, il n'y a pas de secret. Mais Lyon, je sais pas, je suis aussi la Ligue, je suis pas que l'OM, et je trouve que ce qu'ils font, c'est cohérent, et je trouve que, franchement, je les sens bien. Bref, pour parler de l'Olympique de Marseille, moi, je crois qu'il faut que, dans un premier temps, Villas-Boas, il faut qu'il sorte les joueurs du traumatisme au Garcia. Parce qu'on est toujours dans le traumatisme au Garcia. Cette équipe se cherche. Je pense qu'on a des joueurs. Je pense que quand même, sur le papier, on a quand même des joueurs qui tiennent la route pour la Ligue 1, que pour la Ligue 1 et pour les deux coupes nationales. Vraiment là où j'ai dit qu'il y a des urgences, mais vraiment d'urgence, il y a latéral gauche, parce qu'à ma vie, c'est carrément un signe d'horreur. Ça devient catastrophique. J'aimerais qu'on en ait 11 comme Sakai, parce que Sakai, c'est le modèle à suivre, même si c'est pas le grand technicien. Ce gars-là, il est toujours à fond. Le match contre les Rangers, il venait de rentrer, il avait repris le lundi. Il était à fond, déjà. C'est un joueur exemplaire. Mais après, bon, j'aimerais qu'on ait vraiment un vrai latéral gauche qui tienne la route. Et puis surtout, le pauvre donc Valère Germain devant, malheureusement, alors c'est dommage parce que dans un système de jeu où il jouerait en 9,5, il est très très bien comme il faisait à Monaco avec Falcao, mais là dans un 4-3-3 que va installer Villas-Boas, franchement je le sens pas et je pense que si on arrive, alors j'attends que ce soit fait officiellement, si on arrive à avoir éventuellement Benedetto, on sait jamais, ça peut peut-être faire quelque chose. Après le milieu de terrain, moi je suis d'accord, j'ai écouté ce que vous avez dit, je pense que Luis Gustavo peut être notre vrai leader. Luis Gustavo est un vrai leader. Je pense que l'arrivée de Strootman y a fait très mal quelque part au Paris. C'est vrai qu'il a été pas mal baladé, mais je pense que Strootman l'a un petit peu tronqué dans sa façon de voir. Mais je pense que Luis Gustavo, c'est vraiment le joueur qui doit être le capitaine, notre leader. Et l'autre soir contre Bordeaux, d'avoir mis Steve Mandanda aussi capitaine, je pense que Steve, il est affûté, il est actuellement, il est revanchard, et je pense qu'il peut encore nous faire une très très belle saison. Je crois que vous le disiez, je crois que c'était Pierre Ducrot dans un des afters qui disait qu'il connaissait Steve Mandanda, et je crois que Pierre, tu avais raison en disant que je pense qu'il nous doit une saison, et bien affûté, Steve a encore de très belles choses.
Il n'a pas perdu tout son talent et ses qualités, ouais, j'en suis persuadé. Moi je pense qu'il y a eu un lâcher prise par la
post-coupe du monde.
Ouais, non, ouais, et puis par la saison de l'OM et le contexte quoi, qui a été trop pesant à un moment donné. Il y a eu un lâcher.
Je pense aussi, mais après, bon, après, vous savez, les saisons, c'est toujours pareil. C'est vrai que on a vu Lille. Regardez l'année dernière, Lille, on les attendait pas du tout. Et puis, regardez la saison qu'ils ont fait, une saison absolument extraordinaire. Je pense qu'aujourd'hui, le gros travail pour l'OM, au-delà des recrutements aux deux postes là que je vous ai dit, bon, évidemment, Jonathan disait, je crois, dans les afters avant-hier, que il fallait trouver au milieu de terrain également un autre milieu de terrain, mais je crois que vraiment la priorité aujourd'hui pour l'Olympique de Marseille, c'est de vraiment trouver un bon latéral gauche, latéral gauche, et surtout également essayer de faire vraiment venir conclure ce transfert de Benedetto, parce que franchement Valère Germain, il va avoir des difficultés. J'ai lu aujourd'hui que Thauvin normalement devrait rester. On est dans une, alors faut pas oublier non plus, c'est vrai qu'on n'en parle pas, certains en ont parlé, on est dans une année post-Euro. Des joueurs vont vouloir se montrer, des joueurs vont vouloir également, on l'a vu, hein, l'année où on a eu la Coupe du Monde, certains joueurs ont haussé leur niveau de jeu. J'espère voir un Payet, même si je suis pas convaincu que sur un côté, Payet soit vraiment bien à l'aise, il est mieux en électron libre, mais si Payet veut vraiment se donner avec la technique qu'il a, c'est vrai que le match contre Bordeaux, il a marqué deux buts, c'est vrai, mais les deux buts, il les marque, il a la technique, il a la patte, il est quand même, sur le premier but, il est vachement excentré quand il reçoit le ballon, il la place bien, il a quand même un toucher de balle qui est quand même assez exceptionnel. Voilà, donc voilà, mais je suis pas si pessimiste que ça. Moi, j'attends de voir, et j'attends surtout que Villas-Boas mette sa patte et sorte cet OM du traumatisme Garcia. On est toujours dans le traumatisme Garcia. Il faut qu'on en sorte.
Et
voilà, c'est mon point de vue.
Ouais, mais il pourra pas tout faire, parce que ça va être les résultats. Moi, c'est OK, le rôle de l'entraîneur, c'est pas parce que je le minimise que je dis qu'il ne sert à rien, absolument pas. Mais tout Villas-Boas qu'il est, et qu'on parte d'une page blanche et qu'on soit dans l'optimisme parce que c'est le début de la saison, ça va être les deux, trois premières journées de championnat qui vont déjà donner le ton. Et là, on va voir si Villas-Boas, en plus des qualités a priori qu'il affiche, il saura aussi si ça se passe mal. Parce que moi, il y a des choses sur lesquelles je suis optimiste mesurément, mais il y en a d'autres sur lesquels j'ai des doutes. Et Villas-Boas, moi, la seule chose qui m'a beaucoup intéressé dans l'entretien de ce matin, c'est que le mercato n'est pas terminé, donc il n'a pas son effectif au complet. Il a, en Zubizarreta, des contours de cet effectif assez clairs en tête. Reste à voir maintenant. Mais voilà, Villas-Boas, il pourra pas transformer les choses parce que c'est les résultats et c'est ce que les joueurs.
Ah mais plus,
Pierre, tu vois ce que je veux dire, c'est.
Alors je suis d'accord avec toi, sauf que je rajouterais, j'ajouterais un petit bémol, c'est que c'est pas les deux trois premiers matchs qui vont te dire ça, c'est les deux trois premiers mois peut-être.
Oui, c'est si, un peu court.
Rappelle-toi du début de saison marseillais l'année dernière. Je crois qu'il y a un nul contre Rennes et une défaite contre Nîmes, mais tout le reste c'est des 4-0. T'as des victoires importantes, t'as des victoires larges où tu te dis.
Au mois d'août.
Ah ouais,
alors moi je m'en souviens pas. Les
5-6 premiers matchs, t'as, je pense, 2 fois 4-0 ou 4. Il y a beaucoup de buts marqués par l'OM. Il y a un nul 2-2 contre Rennes. Il y a une défaite contre Nîmes, mais tout le reste c'est des victoires et des victoires assez. Je sais pas si je me trompe et si Jean a des souvenirs de ça, des résultats précis.
Oui, la première journée au Vélodrome, c'était contre Toulouse. Il y a un score très large de l'OM, je crois que c'est 3-0 ou 4-0.
4-0 contre Toulouse, exact, déjà.
Ouais, 4-0.
Et là, il y a pas un match contre Guingamp aussi avec 4 buts.
Oui, il y a un carton, mais attends, mais ce qu'il faut signaler, Pierre, c'est que là que je pense que dans la deuxième journée, c'est là où tout bascule. Tout bascule pourquoi? Parce que sur la gestion de Garcia sur ce deuxième match, sur le premier match, il met, je crois, une défense avec Camara et Luis Gustavo. Parce que, évidemment, Calleta-Char et Rami ne sont pas prêts. Et l'erreur que je pense, après maintenant, c'est à mon niveau que je dis ça, c'est pas
ouais,
si je parle derrière un téléphone, c'est qu'il veut mettre, parce qu'ils étaient revenus depuis 10 jours, il met, alors qu'ils ne sont pas prêts du tout en défense, Calleta-Char avec Adil Rami qui sont à la ramasse au
dalle,
face à Nîmes, déchaînés complètement.
Exact. Et Nîmes, il y a une défaite 3-2, c'est ça, on fait comme ça.
Et la défaite est de 3-1 ou 3-1, ouais. Je crois. Non, 3-1. Il y a Thauvin qui marque, hein. On prend 3-1. Ouais, ouais. Et ensuite, je vous garantis que l'année dernière, en 25 matchs, j'avais fait mon calcul, en 25 matchs, Rudy Garcia avait changé 18 fois la défense de l'OM.
Ouais, ouais.
On était quand même,
trouvé la formule. Je m'en parlais, ouais, c'était.
Merci, Jean. Merci Jean d'avoir appelé au 32-16. Dans un
Avec
instant,
plaisir.
Bonsoir.
On va faire un pré-bilan.
Salut Jean.
Nous, on aime les pré-bilans. Ça veut rien dire cette expression, un pré-bilan.
Même l'emploi est d'accord avec toi d'ailleurs. T'es sûr que tu veux le faire quand même?
On va le faire. De la EA Ligue 1 Games.
Ah oui, surtout ça.
De François Manardo. Le
pré-bilan de ça.
Quelques minutes, tu vas voir. C'est hyper
intéressant. Mais c'est pas moi qui ai demandé le bilan.
François Manardo, on est ensemble jusqu'à minuit. On revient dans un instant.
Petit avis.
RMC, l'afterfoot, Nicolas Jamain.
Et oui, on est là, on est ensemble jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot comme tous les soirs avec Pierre Ducrot, avec François Manardo ce soir, l'Olympique de Marseille, on en a parlé. Désormais, direction Washington, Seba Defarge toujours avec nous. On va faire un pré-bilan. Oui, un pré-bilan de la EA It's in the Game. Vous connaissez ça ou pas?
Oh oui,
It's in the
oui.
Game.
Oui, bien sûr.
Tu joues à ça, gamin?
Moi, c'est plus en regardant mon fils jouer que.
Voilà, c'est ça.
Moi, j'ai joué. Non, c'est sûr, non, je suis pas fan de PlayStation.
EA
et de...
Ligue 1 Games, première édition, avis tranché, François Mallard.
Beaucoup de sélectionneurs aimeraient être à la place de Didier Deschamps et c'est pas les scénarios des derniers matchs qui démentissent.
Qui démentissent.
Bah, moi, j'étais sur la.
Là, c'est les scénarios, déjà.
Ouais, alors attends, tu vas pas me jeter, Nicolas Jamain, tu vas pas me jeter le français à la gueule. Scénario, c'est acceptable, hein, monsieur Jamain, vérifié. Et en revanche, démentise, là, oui, là, ça va. Ouais,
démentise.
Bon. Là, si mes parents m'écoutent.
Et par rapport avec des aimants ou non, démentise ou. Non.
Bon, alors, dément, après ça, qu'est-ce que tu veux que je raconte? Que cette initiative de la Ligue, alors, il se trouve, les amis, que c'est un petit peu ressucé quand même, hein, parce que on en a parlé avant de préparer l'émission, et puis, j'en ai parlé dans les grandes gueules du sport. Donc, moi, je trouve très bien que la LFP prenne comme ça ce genre d'initiative. De toute façon, ça fait partie de leur boulot pour exporter le football français. Deux clubs à l'étranger, d'autant que, comme chacun le sait, les droits de la Ligue 1 à l'étranger, c'est un bakchiche, c'est 80 millions d'euros, il me semble, par rapport à ce que, la Première Ligue, la Liga, arrive à ramener comme oseille, par rapport à leurs droits lorsqu'ils les vendent dans les pays étrangers. Bon, ça, c'est une première chose. En revanche, il y a une interrogation et non, peut-être attends, que Saber
c'est une question idiote ce que je vais dire j'ai bien compris c'est les droits de la Ligue 1 ce que rapportent les droits de la Ligue 1 à l'étranger c'est 80 millions d'euros
je crois que c'est 80 millions d'euros oui alors que on compte ça presque autour de c'est peut-être ça arrive presque au non je vais peut-être pas dire au milliard mais on est à plusieurs centaines de millions d'euros sur la Première Ligue anglaise.
Bah oui non mais je alors ça m'étonne pas pour la Première Ligue anglaise, ça m'étonne que ce soit si bas quand même pour la Ligue 1
pour la Première Ligue
c'est un milliard.
Plus d'un milliard.
Alors, tu vois,
millions,
plus d'un milliard.
20 millions, sont des chiffres qu'on a partagés.
80 millions d'euros
avec
pour
les GG hier.
Jusqu'en 2024.
Et tu me dis combien
80 millions.
Donc, c'est 80, Pierre.
Ah, c'est vraiment pas
en fait, c'est différent. C'est pas exactement ça. Pour être extrêmement précis, c'est la LFP qui a cédé ses droits TV à l'international à beIN Sport pour 80 millions. Ouais. Ensuite, c'est à beIN Sport derrière de les revendre, comme ça peut être le cas, par exemple aux États-Unis. La Ligue 1 est diffusée sur ESPN.
Oui.
Résultat, il y a une somme d'argent évidemment qui a été versée par ESPN, et ensuite on fait moitié-moitié entre beIN Sport et la Ligue.
Ouais, non, mais ce qui est différent, ça veut dire parce que
la note ensemble.
Ça veut dire on est bien d'accord que
donc c'est un revenu minimal 80 millions.
Voilà, beIN qui revend les droits de la Ligue 1, ils empochent pas 80 millions par an, ça me semblerait fou quoi. C'est beaucoup plus que ça.
Oui.
Je pense.
Bien sûr. Donc c'est ça. C'est que la LFP, pour être vraiment exact, a cédé ses droits TV à l'international à beIN Sport.
Et qu'elle en veut également à beIN Sport d'avoir un petit peu bradé les droits télé à l'étranger.
Oui. Oui, clairement.
Si. Dikio regrette effectivement que beIN Sport n'ait vendu sur une si longue période jusqu'en 2024.
Mais on peut le comprendre
à ce prix-là.
Non, mais on peut le comprendre. Alors, merci Saber pour cette précision qui s'imposait. Alors, en revanche, si mon chiffre n'était pas inexact, mais il fallait effectivement expliquer de manière un peu plus claire comment c'est articulé. Merci Saber. Mais on est, pour revenir à mon propos, très très loin, puisque Saber l'a également souligné, on est sur une valorisation qui est au plus d'un milliard d'euros pour la Première Ligue anglaise. Donc moi, j'ai par rapport à cette tournée américaine, d'abord j'ai eu une première interrogation auquel peut-être Saber pourra répondre. Pourquoi est-ce que la LFP n'a pas pu ou n'a pas songé, peut-être, si c'est n'a pas songé, c'est pire, organiser des matchs contre des équipes américaines, même si elles ont elles sont en plein championnat, il y avait peut-être moyen d'organiser un match amical, puisque les équipes françaises sont en préparation, donc elles sont pas à fond, avec leurs homologues français.
Ça, c'est une chose.
Il y en aura, il y en aura un, donc mercredi contre DC United, mais il est vrai.
Mais il est détaché du tournoi.
Cette réflexion-là, elle a été mûrie, pas pour cette année, mais pour la saison prochaine, puisque désormais, on peut vous le dire, la LFP compte reproduire ses I1 Ligue 1 Games la saison prochaine aux États-Unis toujours, mais cette fois-ci en tentant d'intégrer des équipes locales, des équipes évidemment américaines, et pourquoi pas même aller encore plus loin, à savoir organiser à la suite de ces I1 Ligue 1 Games le trophée des champions aux États-Unis. C'est en tout cas en cours de réflexion actuellement. Une certitude donc, ces I1 Ligue 1 Games ne existeront encore une fois à travers une deuxième édition. EA, excuse-moi, tu parles bien mieux que moi anglais, t'es un globetrotter, Dico.
C'est beaucoup plus joli que toi.
Donc le fait que la LFP s'abère y est songé, alors j'imagine qu'ils y ont encore plus songé de manière encore plus forte à l'aune de ce qu'ils ont pu constater sur ce tournoi, c'est que les stades ne sont pas remplis en dépit d'une politique de billetterie très très basse. C'est-à-dire qu'à 6 ou 7 dollars, tu pouvais aller assister à un match.
Il y avait combien de personnes dans le stade pour Saint-Etienne-Bordeaux? Montpellier-Bordeaux, pardon.
Il y avait grosso modo un peu moins de 3500 personnes. J'imagine. Sur toute la journée.
C'est rien.
Autant pour les deux demi-finales.
Ça
finalement, pour un stade qui est flambant neuf de 20
000 personnes. Et comment il analyse Didier Quillot, ça, que tu as rencontré, Saber? Comment il
explique? Écoute, du côté de la Ligue, on estime que cette idée reste très bonne. C'est pour ça qu'elle va être reproduite la saison prochaine, mais qu'il y a eu un manque d'un point de vue marketing. Il est vrai que quand tu te balades dans les rues de Washington, il n'y a pas une seule pancarte, il n'y a pas un seul panneau d'affichage publicitaire qui concerne Ligue 1 Games. Personne n'est au courant. Pour en avoir discuté par exemple avec différentes personnes, ici justement le personnel de l'hôtel où je suis, notamment des personnes qui parlent français, elles me disaient moi je suis fan de Marseille, je suis fan de Saint-Etienne. Ah bon, ces équipes-là sont présentes? Je ne savais pas. Personne n'est véritablement au courant.
Connaît
il y a
les
beaucoup
joueurs...
d'invitations, évidemment.
Non, mais voilà, qui connaît les joueurs de Montpellier, de Bordeaux?
Ça, c'est mon deuxième point. Et si vous voulez bien que je fasse un avis tranché, moi, je veux bien faire un avis tranché, mais je veux bien développer aussi. Après, on partage.
T'as lancé Saber trois fois, donc forcément.
Non, mais parce que moi, je lui donne la parole, je suis à peu près bien élevé. Mais le deuxième point, parce que Saber dit qu'il n'y a pas d'affichage, mais même s'il y a eu d'affichage, Saber, d'abord, t'as pas une diaspora française. Elle est importante aux États-Unis, mais elle n'est pas implantée dans le tissu social comme les latino-américains. D'accord, ça n'a pas le même effet que si tu as un club mexicain qui vient faire une tournée, qui vient faire une tournée aux États-Unis, que ce soit côte est ou côte ouest. Et puis enfin la deuxième chose, et j'en parlais dans les GG, je vais le redire ici, c'est que qu'est-ce que c'est que le football français de club à l'international? Quel est son impact à l'étranger? De quel prestige, dans quel prestige il peut se draper pour dire Paris, moi quand je vais PSG, quand je vais à l'étranger? Ok, mais c'est le PSG, c'est pas construit depuis l'arrivée de QSI. PSG sont des effets marketing aussi avec des très grosses signatures. Mais quand tu fais une tournée à l'étranger et que tu es un grand club européen, ça peut mordre, ça peut marcher. Mais quand tu es le football français de club et que tu n'as que deux Coupes d'Europe en 64 ans, et là je me répète, tu n'en as que deux en 64 ans, de quel prestige tu peux te prévaloir, Saber? Aucun. Aucun. Je faisais cette analogie qui est factuelle. Mais je veux dire, on est au niveau en Coupe d'Europe du foot suédois. Donc si demain t'as quatre équipes suédoises, Nico, c'est la réalité. Tu as deux Coupes d'Europe.
C'est l'actualité.
Mais l'histoire.
Ligue 1 n'est pas le championnat de division 1 suédoise non plus.
Mais qu'il ne soit pas, il s'appelle la Svenskan, le championnat de Suède. Ce championnat, je veux bien, mais à l'étranger, il faut qu'on arrête aussi de se regarder le nombril. On n'est à rien ou pas grand-chose à l'étranger.
Est-ce que les Suédois savent que ça s'appelle la Ligue 1 Conforama chez nous? Je suis pas sûr.
Eh ben, c'est peut-être le début d'un développement de la Ligue 1 à l'étranger avec les EA Ligue 1.
Mais qu'il le fasse.
Tiens, écoute,
le fasse. Merci à Saber. Saber, écoute, pour ta culture générale.
EA Sports. It's in the game.
Voilà.
C'est ça. It's in the game. Hein. Je sais pas comment tu le dis, mais c'est it's in the game. Hein.
C'est ça. On a du mal à comprendre. Romeu, Alban.
EA Sports. It's in the game. Non,
et après ça, si on n'a pas des jeux gratos, là, je comprends plus rien. Hein. Vu comment on leur a servi.
C'est vrai.
Non, mais voilà, mais cette question du prestige du foot français de club, et là aussi, on est au niveau mondial, une anomalie. C'est-à-dire que tu as plus de trophées avec une seule de tes sélections que tu n'en as avec tes clubs.
Je suis d'accord, c'est factuel, t'as raison.
Non, mais
merci Saber.
C'est factuel.
Avec François. Plaisir, messieurs. Bonne soirée.
Salut, ciao, bonne soirée. Ça je te rejoins, c'est factuel, mais je rejoins aussi Nico. L'actualité de ces dernières saisons et ces dernières années. Et puis l'actualité du foot ou l'évolution du foot fait que t'as quand même un championnat que tu peux commencer à exporter et qui pour moi devrait être exporté un petit peu mieux que ce qu'il l'est depuis quelques
c'est
années.
C'est un échec ou pas cette tournée aux États-Unis?
Oui,
parce que, c'est un échec.
Est-ce que c'est bien fait? Est-ce que je sais pas? Est-ce qu'il y a des raisons à ça?
Je sais pas. Ouais. Mal préparé, mal communiqué.
Tu joues pas contre des équipes américaines. Bon, il se trouve que tu mets pas le Paris Saint-Germain aussi dans le coup. Ça aurait ramené un peu de monde. Mais après, encore une fois. Qu'on ait fait, excusez-moi le terme, dans la consanguinité avec quatre équipes françaises et en plus sans les Parisiens, qui est l'équipe qui a le plus d'écho à l'international,
t'as
le plus d'impact.
La tournée américaine organisée par le PSG en privé, c'était pas l'année dernière mais l'année d'avant, je crois, ouais. Qui avait été un large succès. Il y avait du monde partout.
Alors le il y avait deux équipes,
Il y avait l'Inter,
il y avait Chelsea.
Bien sûr. Non mais je veux dire, si tu le fais pour la Ligue pour la première fois, t'es quasiment obligé de le faire avec le PSG. Et effectivement, je te rejoins, tu le fais pas entre soi, tu le fais avec des équipes américaines. Aussi pour soulever du monde.
Le projet de la Ligue, a priori, c'est ce qu'a défloré Didier Quillot déjà hier, c'est effectivement le trophée des champions sur place, juste avant la EA League and Games number 2, avec le PSG, puisque ça permettrait d'enchaîner deux matchs de prépa, plus le trophée des champions sur place,
d'accord.
Avant de revenir en France en Ligue 1.
Bah, ce serait mieux.
Pour lancer le championnat de Ligue.
Ce serait mieux.
Ça pourrait être la bonne idée, effectivement. Ça cartonne sur Twitter. Notre hashtag, changer un résultat, ça n'arrête pas. On a plus de 400 commentaires pour l'instant, en l'espace de deux heures seulement.
Mais oui, ça cartonne.
Oui, l'idée est belle, elle est de Morgane Maury, notre confrère de reporter d'RMC Sport.
Super, Morgane.
On vous rappelle le principe, hein. Vous avez l'opportunité ce soir dans l'after de réécrire l'histoire, de changer un seul résultat. Votre équipe, par exemple, votre sélection aussi, pourquoi pas, équipe de France, équipe d'Algérie, Sénégal, Italie,
beaucoup d'Italiens
nous écrivent sur la page Twitter de l'Afterfoot. Choisissez-le, appelez-nous 3216 à partir de 23h.
Ah, pour les amis italiens, je pense avoir une petite idée.
Il y en a plein, évidemment. Oui,
il y en a une surtout.
2006, c'est la finale 2006. Eux disent, beaucoup, nos amis italiens, 2006, c'était mérité, il n'y a pas à réécrire. Seule équipe qui prend aucun but sur action de jeu, dans le jeu de la Coupe du Monde. Meilleure défense, meilleure attaque, championne du monde normale. C'était mérité.
Ouais, enfin, le mérite, c'est une notion qui n'est pas toujours, vraie dans le foot. Sinon, les Pays-Bas auraient déjà été champions du monde.
L'after revient dans un instant, mais si on va débattre sur Girondins de Bordeaux. Bordeaux est-il inquiétant? Appelez-nous, supporters Bordeaux, 32-16, bien sûr. Pour l'instant, un recrutement très timide. Quand c'est gratuit, c'est dans nos prix. C'est un peu la maxime des Girondins de Bordeaux pour l'instant. Beaucoup de joueurs libres sont arrivés à Bordeaux. Quelques infos transferts également qui concernent Laurent Koscielny. Oui, beaucoup rêvent de le voir arriver aux Girondins, parmi les supporters. Rennes est entré dans la danse. Clairement, aujourd'hui, une information RMC Sport à développer dans un instant. L'after revient avec François Manardeau et Pierre Ducrot, bien sûr, le 32-16 est ouvert. Hashtag RMC Live, bien sûr. Vos commentaires, vos appels, vos réactions. Bordeaux, dans un instant. Et bien sûr, le hashtag changer un résultat. À tout de suite.
RMC, l'after foot.